Bienvenue pour votre nouveau rendez-vous avec l'école Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers, professeurs échangent sur les innovations et les best practices du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Et on débute avec une question qui nous concerne tous. Comment nous nourrirons-nous en 2030 ? L'alimentation de demain sera-t-elle forcément meilleure pour la santé, pour la planète ? Moins de viande, plus de végétal, mais encore des céréales anciennes, des algues, des insectes ? Plus de bio et de local, mais quid des cuisines fusion et des produits du bout du monde qui nourrissent l'inventivité ? La cuisine nomade va-t-elle supplanter la table du restaurant et la gourmandise dans tout ça ? Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec nos invités.
À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger, Tricatel.
Enfin, ce qu'il représente n'existe plus. Une cuisine compliquée, pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement.
Autour de la table aujourd'hui chez Ferrandi Paris, honneur aux femmes, Aurélie Zunino est avec nous, coordinatrice de projet de sensibilisation à l'alimentation à la chaire ANCA, ANCA qui signifie Aliment, Nutrition, Comportement Alimentaire à Agro ParisTech. Bonjour.
Bonjour.
Ferrandi est bien sûr partenaire de cette chaire ANCA. Votre objectif, c'est sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Avec nous, nous avons la grande chance d'accueillir le chef Tom Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Après être passé par la Chèvre d'Or chez Lamloise et surtout chez Anne-Sophie Pic à Valence, où il paraît que vous avez imaginé près de 400 plats pour les différents établissements de la chef étoilée, vous venez d'ouvrir surtout votre premier restaurant à Paris, Granit, dans le giron du groupe Éclore de Stéphane Manigold. C'est bien ça ?
Exactement, depuis quelques semaines.
Voilà, tout juste ouvert. Et puis avec nous également Clément Terner. Bonjour.
Bonjour.
Ingénieur agronome, et vous êtes associé dans cette belle aventure qu'est l'atelier Sarrazin, imaginé par Nicolas Crabeau et Benoît Vartel. Vous nous raconterez tout à l'heure de quoi il s'agit.
Exactement.
Alors, la nourriture de demain, l'assiette de demain, on est à peu près tous d'accord, ce sera une alimentation plus saine, plus durable, plus locale, plus bio, en fait, c'est sûr. On y va, en tout cas, on en prend le chemin, on va essayer d'en prendre le chemin avec des tables plus éco-responsables, plus conscientes, plus en lien avec leur territoire. Ceci dit, avons-nous les moyens de nos ambitions ? C'est un petit peu la question que je vais vous poser aujourd'hui. Trouver une alternative à la viande, c'est bien l'un des plus grands enjeux de l'alimentation de demain, mais par quoi on la remplace ? Une fois qu'on a dit qu'il fallait moins de viande, par quoi on la remplace ? Aurélie ? On pense aux protéines végétales, mais pas seulement. Peut-être avant d'imaginer les produits qui vont venir la remplacer, il faut regarder un petit peu ce qu'on a déjà, c'est bien ce que vous nous dites.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour adopter une alimentation plus durable, il va falloir qu'on rééquilibre notre consommation de produits animaux et de produits végétaux. Et effectivement, avant de peut-être imaginer la consommation d'insectes ou d'aliments du futur, effectivement, on peut se retourner vers des produits qui ont été un petit peu oubliés, des céréales qui ont été un petit peu oubliées, comme effectivement le sarrasin, le millet ou l'épeautre, et aussi des légumineuses, hein, les pois chiches, les lentilles, des aliments qu'on consomme pas assez, en tout cas en France, et il faut trouver des moyens innovants justement pour les remettre dans nos assiettes.
Et parce que c'est vrai qu'on connaît déjà pas mal le soja, le pois chiche, la févrole, je connaissais moins, le chanvre, le lupin, le colza, il paraît qu'il y a aussi du teft ou du kanza.
Oui, il y a plein en fait d'alternatives qui sont très intéressantes, qui permettent de diversifier notre alimentation, du coup de manger de manière plus équilibrée nutritionnellement. Et aussi, ça a des intérêts bah, pour les terres, parce que ça permet d'avoir des cultures diversifiées et qui permettent aussi de mieux résister aux aléas climatiques. Et c'est quelque chose qui va malheureusement nous arriver dans le futur, donc c'est des choses très importantes.
Parce qu'évidemment, lorsqu'on pense à l'alimentation de demain, tout ça est très fortement lié à la terre, à l'agriculture de demain, et en tout cas de plus en plus aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se pose la question. Chez Atelier Sarrazin, Clément Terreur, c'est bien comme ça qu'est née l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aventure débute avec la reprise d'une fabrique de biscuits en 2015 autour d'un aliment. Alors j'ai appris que c'était une plante et non pas une céréale, le sarrasin.
Exactement, c'est en fait quand c'est en fleur, et donc c'est vraiment, nous c'est ce qui nous a vraiment très intéressé par cette plante-là, c'est que justement on parlait de, tout le monde est d'accord sur la stratégie finale, sur du plus local, du durable, mais on n'est pas d'accord sur comment l'atteindre.
C'est ça.
Et nous on a vraiment trouvé des avantages très forts pour répondre à ces attentes-là avec le sarrasin, parce que comme c'est une fleur, ça fait revenir des abeilles, et donc du coup en parlant de diversité de culture, ça permet en fait nous, à nos agriculteurs qui sont en bio, de pouvoir venir polliniser en fait tout leur champ. Donc ils vont planter 10% de sarrasin sur leur champ, et ça va tout de suite leur permettre d'avoir des bons rendements. C'est une plante qui est extrêmement résistante aussi, donc ça permet de valoriser des terres qui ne le seraient pas autrement. Et en plus, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, en cuisine et aussi en agriculture. Donc du coup, c'est aussi beaucoup plus facile d'en faire manger, d'en parler, de le cultiver. Et donc c'est pour toute cette raison-là, et aussi parce qu'il y avait des acteurs autour de nous, des gens qui étaient intéressés, des agriculteurs, qui sont venus nous demander comment faire pour rentabiliser leur sarrasin. Et donc l'une des questions essentielles pour avoir quelque chose qui fonctionne, avoir des partenaires qui veulent bien travailler avec vous, c'est la juste rémunération de tous les acteurs sur une chaîne de valeur, sur une chaîne de production. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec le sarrasin. En tout cas, c'est plus facile avec cette plante-là.
Alors, deux choses importantes. D'abord, vous l'avez aussi relocalisé parce qu'il n'y avait pas tant que ça, finalement, d'agriculteurs qui s'intéressaient au sarrasin en France. Et pas en Bretagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Bourgogne.
Oui, exactement. Alors, parce que la Bourgogne et la Bretagne, en termes agricoles, ça a des caractéristiques assez similaires. C'est des terrains qui peuvent être assez durs. Et donc, si vous êtes en bio, vous n'avez pas l'astuce de l'engrais et des pesticides. Et en Bretagne, c'était dur aussi, et en Bourgogne, c'était pareil. Donc du coup, c'est des gens qui ont su maîtriser le sarrasin plus rapidement parce qu'ils y étaient obligés.
Et donc, c'est comme ça que vous avez relocalisé, que vous avez intéressé des agriculteurs, parce qu'effectivement, quand on change les habitudes alimentaires, on emmène avec nous. Alors, ça va dans un sens ou dans l'autre, peut-être des agriculteurs qui apportent des idées, ou d'autres de l'industrie agroalimentaire qui entraînent avec eux des agriculteurs. C'est ça qui est intéressant. Une deuxième chose, vous nous avez parlé tout de l'intérêt du sarrasin pour la terre en tant que plante à cultiver, et l'intérêt du sarrasin dans notre assiette, alors ?
L'intérêt du sarrasin, c'est qu'il est source de protéines, donc justement ça peut être un apport assez intéressant, il est jusqu'à 10%, donc du coup c'est une plante qui va permettre d'avoir cet apport-là, il est source de fibres, il est sans gluten, donc pour toute une partie de la population qui peut être plus sensible à ça, c'est une réponse qui est intéressante. Il a tous les acides aminés essentiels, donc pareil, on va, à mon avis, parler assez rapidement de qualité de la protéine, plus que de quantité, et justement on va éviter les carences grâce au sarrasin par rapport à ça. Normalement, il a tous les avantages, donc c'est pour ça que nous, on essaie de le rendre gourmand, appétissant, ludique, au maximum.
Vous avez une usine de transformation, désormais on reviendra sur tout ce que vous proposez aujourd'hui. Chef Tom Meyer, vous m'avez dit carrément que finalement, à un moment donné, il va y avoir un rééquilibrage. On disait, on ne va pas forcément voir disparaître la viande, ce n'est pas votre idée, vous.
Non, ce n'est pas du tout l'idée. Il faut quand même garder tous les produits qui existent.
C'est ça. Mais finalement, quand on prenait par exemple un morceau de viande, on disait en accompagnement, j'aimerais. Peut-être que là, on dira, je ne sais pas, je prends tel légume et en accompagnement de la fibre.
C'est ça. C'est un peu l'idée. On voit ces derniers temps que les gens consomment mieux la viande, mieux le poisson, qu'on utilise aussi plus de parties. Et avant, on utilisait un légume pour vraiment accompagner un gros morceau de viande. Et maintenant, je pense que, notamment, on voit avec aussi l'émergence de la street food, quand on fait des pâtes de thaï, c'est un exemple tout bête, mais on met un tout petit peu de viande qui va donner vraiment du goût dans tout le plat. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je pense que les choses vont évoluer.
Un petit peu moins de viande pour accompagner. Mais quel genre de viande ? Parce que vous l'avez sous-entendu, c'est-à-dire que aussi on va tout utiliser désormais dans la viande. Il y a une démonstration que vous faites déjà avec votre pigeon dans le restaurant, mais c'est vraiment ça, c'est que aussi on va tout utiliser.
Oui, bah maintenant c'est devenu obligatoire déjà d'un point de vue de nous au restaurant, d'un point de vue du chiffre, hein, parce que si on jette la moitié, ça nous coûte très cher, et en plus de ça, c'est pas rendre honneur aux gens qui s'évertuent à faire les choses bien. Donc on essaye de tout valoriser et ça donne aussi plus de quantité. Et quand sur une même viande, on arrive à la décliner, ça peut donner soit un plat avec beaucoup de complexité, soit on peut le décliner et puis utiliser une petite fois pour une pièce apéritive, pour une entrée, puis dans le plat. C'est là où on, justement, va servir d'un bouillon, d'une viande grasse aux carcasses pour venir parfumer un légume ou un féculent, éventuellement du sarrasin ou des lentilles. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre pleinement aujourd'hui.
Vous n'utilisez pas encore le sarrasin? Si vous l'utilisez un petit peu, ou vous avez des choses qui se rapprochent?
Là, en plus, on est vraiment sur une création autour du sarrasin et de l'huître. Donc, ça tombe plutôt bien. Ouais.
Exactement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de chefs, Clément, qui utilisent le sarrasin, qui font des recettes comme ça.
Oui, c'est une vraie chance. Il y a une vraie vague en termes... Voilà, même en termes de communication, même de chefs, mais aussi de personnes voilà, lambda qui veulent cuisiner quelque chose de différent. On a vraiment des très très bons retours, notamment sur le cacha. C'est du sarrasin qui est toasté. C'est vraiment presque une astuce, mais c'est vraiment un procédé industriel qui va vraiment aider à développer du goût et du coup plein de nouvelles recettes. Et c'est très, très intéressant pour nous.
C'est subtil, mais il y a une sorte de sarrasin japonais, c'est ça?
Oui, c'est le sobacha.
Qui ressemble un petit peu.
Sarrasin toasté, c'est presque plus concentré, c'est un peu différent, mais en définitive, on a quand même le même aromatique.
Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Il ne faut pas se couper. C'est pas parce qu'il va falloir plus de local qu'il faut se couper de ce que peut nous amener aussi, ce que peuvent nous amener les autres pays et les autres pays de la gastronomie.
Non, moi, je pense qu'il faut prendre au maximum local, mais il faut quand même garder l'esprit ouvert sur toutes les découvertes qu'on a faites. Sinon, ça serait revenir en arrière quelque part et s'interdire le café, la vanille ou le chocolat. Enfin, aujourd'hui, je trouvais ça dommage.
Oui, effectivement, on imagine mal le temps, mais il faut continuer à découvrir aussi ce qui se fait.
Mais par contre, tout ce qu'on peut cultiver localement et faire revenir, par exemple, le sarrasin sur les terres françaises, ça, c'est un vrai cheval de bataille et il faut y aller.
Exactement. Si je poursuis dans mon idée, comment on va remplacer la viande par d'autres protéines? On a vu les protéines végétales. Il y a quand même cette question de la viande in vitro aussi, parce que l'idée de manger moins de viande, c'est aussi de faire moins d'élevage ou de le faire mieux. Aurélie, justement, vous en pensez quoi? Vous savez qu'il y a une trentaine de start-up dans le monde qui développent de la viande in vitro, produite en laboratoire, en multipliant les cellules prélevées sur un animal. Pour l'instant, il n'y a aucune histoire qui est rentable, c'est encore un peu compliqué. Peut-être qu'après, ça sera fait avec moins d'ingrédients et moins d'addictifs, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je ne suis pas forcément en faveur de ce genre d'alimentation. Je pense qu'on peut trouver plein d'autres alternatives à la protéine animale. Ça posait énormément effectivement de questions, cette production, effectivement le coût environnemental, d'acceptabilité aussi socio-culturelle, sachant qu'on sait que les consommateurs sont en recherche un peu plus de naturalité. C'est quand même un produit avec des cellules in vitro, avec des agents de croissance ajoutés, etc. Donc ça pose question. Ça fera peut-être partie dans le futur du panorama alimentaire, mais je pense pas que ça sera quelque chose de très majoritaire.
Voilà, mais on en parle beaucoup dans les médias, comme les insectes d'ailleurs, parce que là aussi, il y a des start-up qui sont mises, il y en a quelques-unes en France, ça marche plutôt bien. Mais quand même, il y a une culture, il ne faut pas oublier les habitudes alimentaires. Tom Meyer, vous, les insectes, vous y croyez? Vous pensez, est-ce que vous avez envie de les cuisiner?
Pour l'instant, je trouve que c'est plus quelque chose de drôle et d'anecdotique. On l'utilise parce que c'est bizarre et puis on est curieux de découvrir le goût.
C'est exotique.
Après, avant de faire un risotto avec des fourmis, je pense qu'il va se passer un petit peu de temps chez nous, en tout cas.
On en reparle dans 5 ans. Mais c'est vrai, en plus, il paraît qu'on n'a pas l'enzyme pour digérer correctement si on mangeait beaucoup d'insectes, si on en mangeait à grande échelle. Mais l'idée, plus sérieusement, c'est sérieux aussi, mais c'est vrai que vous le disiez, c'est plus anecdotique. Mais l'idée pour vous, chef, c'est bien l'occasion de mettre plus de végétal et donc de se tourner aussi vers d'autres végétaux comme par exemple les algues et les plantes sauvages. Un mot sur les algues. Vous êtes de plus en plus de chefs, et pas seulement en bord de mer d'ailleurs, à utiliser les algues. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'on sait que la pêche devient de plus en plus compliquée. On s'ouvre à d'autres espèces. Il y a quelques années, on ne jurait que par le bar, le turbo, le macro, c'était complètement oublié. Aujourd'hui, tout le monde aime le macro, tout le monde en mange, et il y a d'autres poissons qui arrivent et qui commencent à être consommés de manière plus fréquente, on va dire. Et également, nous, en tant que chef, on utilise les algues parce qu'on aime vraiment ce côté iodé. Mais on n'a pas envie de toujours d'utiliser du poisson. Mmh. On s'adapte aussi à nos clients. On peut très bien faire une salade d'haricots verts quand c'est la pleine saison, faire un petit condiment aux algues, et on va quand même réussir à faire voyager les clients, mais sans pour autant mettre du poisson. Tout comme aujourd'hui, on utilise beaucoup les œufs de poisson, de plus en plus, et pas que le caviar.
Là encore, avec l'idée de tout utiliser. Les algues, je crois qu'il y a une vingtaine d'espèces qui sont autorisées à la consommation en France. Vous travaillez avec quelqu'un qui vous apporte aussi des idées et des informations sur les algues.
On travaille avec les Jardins de la Mer, Valérie et Jean-Marie Pédron, qui sont des cueilleurs sauvages, en fait. Et moi, je suis allé avec eux là-bas, donc c'est au Croisic. Et ils m'ont expliqué qu'il y a 98% des algues qui sont consommables. Et eux, ils les sélectionnent, ils ont des bassins, parce qu'il faut savoir que les algues sont vivantes. Donc ils les mettent dans des bassins pour les préserver, tout est trié, tout est envoyé. Et on les utilise le plus rapidement possible pour qu'ils gardent beaucoup de fraîcheur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés et avec des goûts très différents.
Et vous faites même un dessert.
On fait un dessert aussi.
Avec de l'algue.
Alors c'est pas vraiment de l'algue, c'est de la crist marine qui se ramasse sur les rochers en bord de mer.
D'accord.
Qui a un goût vraiment de citronnelle, qui est très iodé, qui est très intéressant.
Je crois que c'est le chef andalou, Angel León, qui est en train de travailler aussi à la renaissance du riz de mer. Donc en fait, on va voir comme ça apparaître de nouvelles choses. Les algues, Aurélie, ça c'est un vrai produit d'avenir. Est-ce que c'est plus dans l'acceptabilité générale?
Oui, c'est vrai que ça ne fait pas partie dans notre répertoire global, même si voilà, ça s'utilisait dans les années passées, effectivement, sur les côtes bretonnes. Ça peut permettre de diversifier notre alimentation, mais je pense qu'il n'y a pas un aliment qui nous sauvera, qui répondra à ces critères de durabilité. Donc c'est bien, effectivement, de piocher un petit peu partout, dans toutes les différentes sources, et de manger de manière diversifiée.
D'ailleurs, vous piochez aussi du côté des plantes sauvages, Tom Meyer.
Oui. Pareil, j'ai rencontré un cueilleur qui m'a appris un petit peu à regarder ce qui se faisait autour de nous. Il y a beaucoup de choses aussi qui se consomment avec des goûts hyper intéressants, et ça, on commence tous à l'inclure dans nos cuisines parce que déjà c'est très bon pour la santé, et en plus de ça, ça nous élargit vraiment le champ des possibles, et ça nous permet d'avoir des recettes très différentes.
Par exemple,
dernièrement, je suis allé cueillir de la berce.
Oui.
Chose que personne connaît, je viens de travailler une Saint-Jacques avec la berce, c'est une ombellifère qu'on ramasse en fin de printemps, qui a un goût vraiment de pamplemousse, presque graine de coriandre, qui est très intéressant. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui arrivent fortement sur le marché.
C'est très intéressant parce que pour vous, les chefs dans la restauration, vous continuez à travailler. Finalement, quand on est à l'école, par exemple à l'école Ferrandi, j'imagine qu'on apprend pas mal d'ingrédients, et là, vous les réapprenez ou vous en découvrez d'autres encore?
On en découvre toujours. Ouais. Déjà, on s'est vraiment penché sur tout ce qui se fait. Donc, c'est-à-dire que un simple plant de coriandre, on va pouvoir utiliser la graine, la fleur et la feuille. Et alors qu'à l'école, moi j'ai toujours appris à utiliser que la feuille. Et d'ailleurs, on n'arrive même pas à en trouver. Donc, ce qui est important, c'est de regarder à quel moment on peut prendre les choses. Encore ce matin, je me suis fait livrer de la coriandre et il y avait tout dessus.
Ouais.
Donc c'est vraiment un travail génial pour nous.
À votre niveau, il faut apprendre à regarder les choses autrement, que ce soit la viande, que ce soit la coriandre, que ce soit tout. Mais au niveau du grand public, c'est là-dessus aussi que vous travaillez, Aurélie. Il y a une accessibilité justement des produits. Pour que tout le monde puisse en profiter, il faut sensibiliser et éduquer à l'alimentaire. Parce que là, on se dit, oui, mais ça, c'est dans un restaurant. Comment ça va se passer pour notre caddie de demain? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre assiette, sur notre table à la maison, les choses ne peuvent peut-être pas aller aussi vite. Et puis, il faut que ça reste accessible quand même, tous ces changements-là.
Oui, tout à fait. Ben, derrière la définition d'une alimentation durable, il y a deux aspects. Effectivement, il y a l'aspect économique et puis il y a l'aspect respect des cultures alimentaires des populations. Donc, effectivement, l'alimentation du futur, il faut que ça soit des ingrédients qui restent accessibles à toute la population. Or, on sait, alors il y a des études qui ont montré que adopter justement une alimentation qui était un petit peu plus durable ne coûtait pas forcément moins cher. Il s'avère que quand même consommer par exemple bio coûte aujourd'hui un petit peu plus cher. Et effectivement, il faut proposer une alimentation qui respecte les cultures alimentaires. Et c'est pourquoi effectivement les insectes, les algues peuvent poser question parce que ça n'est pas dans notre répertoire typiquement en France ou en Occident.
Oui, et puis le temps de la culture alimentaire n'est pas forcément le temps de l'innovation alimentaire. Il faut du temps, même chez vous au restaurant, j'imagine, pour inviter tout le monde à tester ça. Atelier Sarrazin, vous vous êtes développé sur des biscuits, donc on le disait, et puis petit à petit sur des graines grillées. Là, les pavés végétaux, bien entendu, on ne les appelle pas pastèques, hein, on est d'accord. Mais bientôt, ce sera aussi d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec le sarrasin?
On peut tout faire. On a deux manières de réfléchir à l'innovation chez nous. C'est soit on prend un produit qui existe déjà, qui fait à base de blé, à base d'épeautre, à base d'une autre céréale, et où on sait que le savoir-faire est déjà là. Et on va venir voir des professionnels, des partenaires, des industriels qui savent déjà faire un produit. On vient injecter, on vient proposer le sarrasin. C'est sous forme de farine, donc tout ce qui est la farine, tout ce qui est la boulangerie, ça va fonctionner. On essaie de voir après comment ça peut aller. Et après, sinon, vous avez parlé des pavés végétaux, on va sur des produits qui n'existent pas. Nous, la grosse innovation sur ça, c'est qu'on n'a pas juste copié Beyond Meat ou d'autres, ou Harry & Co. On a vraiment on a fait fermenter notre sarrasin. Donc on a dit, on va enlever tous les additifs, et en fermentant, on va essayer de faire ce qui se passe dans le fromage, ce qui se passe dans d'autres produits qui sont fermentés. On va créer du lien pour créer de la mâche, pour créer du goût. Et donc vraiment, là, c'était de l'innovation. Ça nous a pris à peu près 2 ans et on était plongé dans un grand bain, on ne savait pas ce qu'elle allait donner. Mais c'est comme ça qu'on trouve des nouveaux produits. On a vraiment ces deux façons de travailler.
Après, ce sera des desserts végétaux, des boissons fermentées. La fermentation, c'est quelque chose vraiment qui a l'air de se développer aussi pour les transformations et pour une nouvelle approche de l'alimentation. Mais avec tout ça, on commence à se voir développer des végétariens, des sans gluten, des sans lactose. Que va devenir la convivialité finalement à l'heure de la montée de l'individualisme et des régimes particuliers? Comment vous gérez ça au restaurant, Tom Meyer, parce que ça va être de plus en plus le cas?
Déjà, c'est beaucoup de discussions en amont. Parce qu'il faut. Nous, quand on conçoit une recette aujourd'hui, on prévoit déjà quelles peuvent être les solutions.
D'accord.
Contre un sans gluten, sans lactose, cœliaque aussi. Ouais. Ça arrive de plus en plus. Donc on s'adapte, mais il faut l'anticiper. C'est vrai que nous, ça complique beaucoup nos services, mais il faut savoir répondre à tout le monde. On va pas punir quelqu'un qui ne mange pas de gluten quand il est à table avec d'autres personnes. Donc on doit s'adapter.
Et de plus en plus, vous allez devoir jouer ces individualités. Est-ce qu'on va perdre un peu de convivialité, vous pensez, Aurélie?
Je pense que ça reste quand même très ancré dans notre modèle gastronomique français. Donc... On le voit d'ailleurs, hein, même s'il est un peu fragilisé, on continue à avoir 3 repas par jour. Enfin, ça reste quand même une structuration assez établie. Mais effectivement, il y a l'émergence des individualités. On se revendique un petit peu plus facilement aujourd'hui, effectivement, sans gluten ou vegan. Aujourd'hui, ça peut arriver qu'on partage autour de la table pas tous le même repas en fonction de ses particularités alimentaires, mais on se retrouve toujours tous autour de la table. Donc, je pense que c'est quelque chose qui restera malgré tout dans le futur.
Et même le fait que se développe cette cuisine nomade, cette cuisine de rue, évidemment aidée, si j'ose dire, par le Covid. Tom Meyer, il y a cette montée en gamme finalement du snacking, de la proposition de rue. Vous pensez qu'on va quand même continuer à venir dans vos restaurants?
Je pense que le besoin de s'asseoir, d'être servi, de changer d'atmosphère est très important. Donc j'ose espérer que les restaurants vont continuer à vivre même hors repas de fête. Ça serait dommage de perdre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Et une dernière chose, finalement, on voit tous ces régimes particuliers, c'est aussi parce qu'on a une avance de la prévention par l'alimentation. Et ça, c'est très important. Comme on dit, les 5 fruits et légumes par jour, bien entendu, aujourd'hui, on va avoir des aliments qui sont presque adaptés aux besoins de chacun, est-ce qu'on va continuer à manger par plaisir, à votre avis? Tiens, ça sera mon dernier tour de table.
Moi, j'espère qu'on gardera la façon de se nourrir par le plaisir, parce que sinon, si je pousse un peu le vice, on va se nourrir avec des cachets, des vitamines, et puis ça va nous aider à survivre. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable de manger sans prendre de plaisir. Je ne mange pas pour me nourrir personnellement, mais c'est pour prendre du plaisir.
Aurélie ?
Bah oui, je suis tout à fait d'accord. On ne mange pas des nutriments. On mange parce qu'on a envie de se faire plaisir et partager quelque chose. Donc, je pense que ça doit rester. Et justement, il y a aussi un gros travail justement des industries agroalimentaires et aussi des chefs de nous montrer aussi, de nous inspirer, de montrer que en mangeant un plat qui soit plutôt végétarien, en végétalisant son alimentation, on peut aussi en tirer du plaisir et être satisfait de son assiette. Donc je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que oui, on continue.
Comment on travaille la gourmandise chez Atelier Sarrazin?
La gourmandise, elle est essentielle, ne serait-ce que pour nous, parce qu'on n'a pas créé une entreprise pour faire justement des cachets et juste faire de la nutrition pure. On a besoin que ça soit plaisant, on a besoin de faire plaisir, on a besoin de donner du sens. Et aujourd'hui, la gourmandise, elle se fait avec des chefs, notamment avec une gestion ingénieur-chef pour avoir les contraintes. On travaille avec Jean-François Mallet et c'est vrai que ça nous aide à vraiment apporter de la culinarité, apporter des nouvelles notions, des noms en bouche, surprendre et surtout être différent. C'est important avec un produit de vraiment pas avoir quelque chose qui se ressemble, avoir quelque chose qui est spécifique et qui a un vrai goût. On reconnaît bien les ingrédients à l'intérieur. C'est important pour nous.
Le plat de demain, juste pour conclure, Tom Meyer, si je vous dis là, plat que vous ferez, allez, peut-être pas dans 10 ans, mais dans 4-5 ans?
Un plat assez simple, je dirais, qu'on peut consommer au quotidien. J'ai un très bon exemple, c'est le dal, qui vient de l'Inde, si je dis pas de bêtises. C'est des lentilles corail avec beaucoup de condiments, on peut mettre des avocats, de la patate douce, c'est quelque chose qui est très végétal, qui est très bon à la santé et puis qui est nourrissant
et gourmand.
Ça, c'est peut-être ce genre de plat qui va être l'alimentation de demain.
Avec votre pâte de chef par-dessus, parce que là vous nous dites ça vite fait, mais il y aura les petites plantes, les petits trucs, le petit jus d'ail et tout qui ira bien. Merci beaucoup à tous les trois. Alors la bonne nouvelle quand même à vous écouter, c'est qu'a priori on n'aura pas de pilule en guise de repas, le steak aux insectes non plus, le potager dans la cave non plus, et l'imprimante 3D dans la cuisine, c'est pas tout de suite. Ce n'est pas encore pour demain, enfin peut-être pour après-demain.
Tu n'as qu'à attendre ton tour.
Mamie, dès que c'est prêt, je m'en fourre un morceau dans la bouche.
Hydratation 4, s'il vous plaît.
C'est prêt?
Et voilà!
Et un chef, maman. Personne n'hydrate une pizza comme toi.
Merci beaucoup à vous, Tom Meyer, Aurélie Zunino. Merci beaucoup à vous et Clément Terner. Merci beaucoup. Merci aussi à François Slama qui a réalisé ce podcast et aux équipes de Ferrandi Paris. Allez, pensez à prendre rendez-vous pour le prochain podcast. À demain.